Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Gameblog sur l'actualité du jeu vidéo intrinsèque et aimable. C'est le podcast numéro 539, n'est-ce pas ?
Le temps passe vite quand on s'amuse.
Exactement. Et d'ailleurs, on va faire la présentation tout de suite parce que le temps file à la vitesse de l'éclair. Avec Thomas là-bas,
c'est vrai.
Ici aujourd'hui.
Bonjour, ça va ? Ravi d'être avec vous.
T'as ton masque, tout va bien ? Tranquille. Romain, qui nous
bonsoir.
A rejoint. Qui va nous parler de
tout
de
récemment.
Exactement.
Je vais arriver.
Il est arrivé il y a deux minutes à peu près. Et Plume, bien sûr, qui revient plus frais
d'entre
que jamais.
D'entre les morts.
Voilà, exactement.
Plutôt d'entre les morts, ouais.
D'entre les dead.
Plume of the dead.
Et Pouffer la technique, bien sûr, que vous verrez un jour si vous êtes sage. Alors, aujourd'hui, on va parler de petites choses intéressantes avec l'Xbox Series X encore et les premiers tests de jeu. Et là, évidemment, Romain va s'y coller parce que c'est le spécialiste. On va parler des tests de la semaine aussi. Bon, il n'y en a pas eu 150 000, mais il y a quand même des petites choses plutôt intéressantes. Mais on commence tout de suite par la rubrique Win et Fail. Et on commence tout de suite avec Thomas pour le win de la semaine.
Et
qui
oui.
est très très bizarre.
Oh non, il n'est pas bizarre.
Si,
il est
bizarre.
Il est rassurant. Il est très rassurant, le win de la semaine. Puis il nous vient de Final Fantasy XVI qui avait été dévoilé au dernier PlayStation 5 Showcase et dont on ignore encore énormément de choses, si ce n'est qu'il y avait quelques petits teasers dans le premier trailer. Et aujourd'hui, on apprend par le site officiel de Square Enix via la page recrutement que le jeu serait plutôt bien avancé puisque la partie scénaristique et en tout cas toute la base de ce nouvel épisode serait déjà terminée puisque le producteur Naoki Yoshida recherche maintenant les derniers membres, je cite, de notre équipe pour créer de vastes environnements, des cutscenes et de l'action. On aurait donc une feuille de route qui serait déjà largement établie et ça nous laisse espérer finalement une sortie qui ne serait pas si lointaine que ça puisque on ne sait pour l'instant absolument rien, si ce n'est qu'on aura de véritables infos officielles l'année prochaine et qu'un site teaser devrait bientôt voir le jour sur internet. Et ça pourrait coller avec certaines sources, El Famoso, source de l'industrie, puisque un certain Jason Schreier de chez Bloomberg croit savoir que le jeu serait en développement, avec beaucoup de guillemets, d'une certaine manière.
Alors,
vous le prenez comme vous voulez.
Plus vague.
Voilà, c'est peut-être, il est dans la tête de Yoshida, tu vois. Depuis 4 ans, a priori. Donc voilà, on pourrait espérer que le jeu soit en tout cas suffisamment avancé pour qu'il ne sorte pas justement dans peut-être 4 ans, mais plutôt à l'horizon, soyons fous, 2021-2022.
Si tout va bien.
En espérant évidemment qu'ils ne connaissent pas un développement aussi chaotique que un certain Final Fantasy XV.
Exactement, parce qu'il s'était fait attendre celui-là. Merci beaucoup Thomas, et tout de suite ça va être le fail, évidemment, avec Plume.
Bah oui, évidemment.
Sans... avec notre fail vivant.
Ah oui, le fail,
si
le fail sur pattes, exactement.
Ça va être quoi le fail de la semaine,
Plume. Le fail de la semaine, c'est un peu triste d'appeler ça un fail parce que c'est quand même quelque chose de qui mérite des qualificatifs un peu différents et un peu plus sérieux. La fermeture prévue d'Activision Blizzard France. On se rappelle en février 2019 que Activision Blizzard avait lancé un plan de licenciement de 800 personnes quand même à l'échelle de toute l'entreprise, que ce soit Activision Blizzard et King, alors que cette année-là, Bobby Kotick se vantait d'une année record en termes de revenus et de profits.
En fait, il parlait pour lui surtout.
Encore pour lui, ouais.
Exactement.
Record de rémunération.
Il parlait pour lui. Et là, Bloomberg, donc encore une fois Jason Schreier, ont appris il y a quelques jours que la branche française qui est basée à Versailles allait finalement fermer, qu'il y aurait environ 285 salariés qui allaient être donc remercié
ou
recasé à Londres puisque visiblement il y a des velléités de vouloir recentrer un petit peu l'activité ailleurs.
Encore que ça pose question pour le reclassement à Londres parce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule au dernier moment. Ils ont dû se dire que c'était pas possible, surtout avec le Brexit et compagnie, ça va être un merdier pas possible.
Déjà de mémoire, quand il y avait eu les affaires qui avaient fait parler d'elle, genre il y a un an ou deux, ils avaient parlé de licenciement en France, mais c'est le droit du travail en France, etc., qui avait ralenti les procédures
la manœuvre.
Et suspendu même certaines pour la France en tout cas. Et donc oui, ils n'ont pas quitté leur idée. Mais je sais pas bien, parce que Versailles, c'est Activision Blizzard ou juste Blizzard ? Parce que je sais qu'ils avaient des bureaux à Levallois aussi. Ils les ont plus ?
À Levallois, on ne sait pas encore. Certains disent qu'effectivement, ils sont tous au télétravail pour l'instant et que ça n'a pas vraiment fermé. Donc pour l'instant, ils continuent. Mais Activision Blizzard, visiblement, tout le monde est arrêté. Ils ne travaillent plus du tout. Quoi.
En tout cas, ils veulent recentrer.
À Versailles, pardon.
Ouais. Ils veulent recentrer sur Londres.
Et c'est ce qu'ils voulaient en tout cas à la base.
Pour la petite anecdote, c'est... à cause d'une mauvaise communication entre Activision France et Activision Londres, enfin Activision Europe à Londres, que j'ai déjà été en press tour au mauvais endroit.
Quelle classe.
Ils nous ont fait aller à Londres,
ah oui, ça
alors
va,
que le
ça.
Press tour était à Montreuil.
Ah, c'est ça.
Donc en fait, on a fait un aller-retour dans la journée à
Faut
Londres.
Rien.
Arrivé à Londres,
il y avait avant le Covid.
Oui, ça, bah, c'était il y a plusieurs années. Il y avait personne. Ils savaient pas où on était. Et nous-mêmes, on savait pas où on
ça
allait.
Ça veut tout dire.
C'est qu'il y avait une sorte de téléphone arabe entre Londres et Paris. Et ça avait provoqué tout un couac. Je rencontrais peut-être en détail.
Ça aurait pu être pire parce que t'aurais pu avoir un truc prévu à Londres et te retrouver à Montreuil, tu vois. Donc à choisir, je préfère me tromper et aller à Londres finalement.
Ben oui, mais là.
Ouais, mais si tu fais juste l'aller-retour.
Là, en l'occurrence, on a perdu un temps de ouf parce que les développeurs nous attendaient à Montreuil pendant toute la journée. Donc en fait, on a fait notre press tour. Je crois on est arrivé à 17 ou 18 heures à Montreuil.
Le date à midi.
Alors qu'on était tous de région parisienne, hein, en fait. Et c'était un couac monumental. L'histoire est assez cocasse, je vous la raconte.
Et le bilan carbone négatif.
Complètement. Ouais. Donc voilà, encore une mauvaise.
Si c'était à Los Angeles. Genre, ils nous envoient à Los Angeles.
Ça aurait été trop.
On arrive là-bas, non, bah non, il y a pas d'hôtel.
Et qui êtes-vous et que faites-vous ici?
Ouais, donc Plume, vas-y, finis.
Oh, tu disais juste encore une mauvaise nouvelle pour Activision Blizzard qui quand même engrange. Un pactole monstrueux encore une fois hein,
ouais, Bobby Kotick je crois qu'il s'était pris genre 30 millions de dollars
30 millions de rémunération donc tout va bien pour lui et les autres peuvent gentiment crever la gueule ouverte
exactement
il optimise
malheureusement on vit dans ce monde un peu fou quoi.
Non, mais il est comme Donald Trump il est
c'est dingue hein. Oui c'est ça c'est qu'ils arrivent à optimiser totalement tout leur argent, les impôts, etc. Mais par contre, le petit peuple peut crever.
Et nos pensées vont évidemment aux personnes concernées. Exactement. Parce que
c'est pas ce qui va se passer pour eux.
Se retrouver
bah non,
carreau.
C'est pas. Puis on a une pensée pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, au passage.
Et on vous tiendra au courant, évidemment, des avancées de la chose. Dès que Jason Schreier aura des infos. en primauté, comme on dit. Merci pour ces win et fail, messieurs. Tout de suite, on va lancer les débats du podcast. Et pour ce premier débat, je me tourne vers un certain Romain M, qui est à ma gauche.
Je vais débattre avec moi-même, puisque je suis le seul à avoir joué à la Series X. Donc
oui, mais cette fois, tu ne vas pas parler de la console et de ses attributs surpuissants. Tu vas surtout nous parler des jeux que tu as pu avoir chez Watt, en fourbe.
Jusqu'à présent, ils nous avaient permis surtout de tester la rétrocompatibilité. Là, on est dans la deuxième phase du test. Qui est les premiers jeux next-gen, et là plus particulièrement des jeux cross-gen, parce qu'on n'a pas encore de jeux qui sortent uniquement sur Xbox Series X.
Et ils essaient de monter en puissance comme ça, histoire de...
Et donc, vous
dire... Non, mais on ne sait toujours pas quand ils vont arriver, d'ailleurs.
Oh, ça va, tu te calmes.
Il y a l'un d'entre eux dont je ne peux pas vous parler, je crois.
Et arrête de mentir, tu l'avais dit que tu allais en parler.
Je peux vous parler de plusieurs, donc Dirt 5, Yakuza Like a Dragon.
Ça, c'est
et,
sûr.
Et tout récemment... Gears 5, ce que je comprends comme un jeu cross-gen parce qu'il a quand même le droit à une grosse mise à jour qui en fait un jeu Xbox.
Et c'était pas le cas au départ, hein, si je me souviens bien.
De quoi ?
Pour Gears.
Comment ça ?
Ça devait être qu'un jeu Xbox Series X.
Bah non, à la base.
À toute base, non ?
Gears 5,
ils ont pas changé ?
Gears 5, c'était un jeu. Il est sorti.
Il est déjà sorti.
Ah, mais c'est vrai, mais oui, je suis bête.
Non,
oui,
tu penses peut-être
au Tactics.
Oui, c'est Tactics.
C'est ça, voilà, pardon.
Et donc, Gears 5, oui, qui a été mise à jour très récemment. Pour ceux qui ont déjà accès à la Series X. Donc, on va commencer par Dirt et Yakuza Like a Dragon. Mm-hmm. Et moi, déjà, de base, j'ai été étonné de voir que même sur Series X, tu as plusieurs modes d'affichage à choisir. Tu vois, c'est un peu comme sur Xbox One X ou même sur PS4 Pro, où tu pouvais choisir entre le framerate et la résolution. Mm-hmm. Et bien là, sur Xbox Series X, c'est la même chose. Premier truc qui me gêne un petit peu, moi, c'est que je trouve que c'est pas assez explicite. Mais là, pour le coup, c'est plus la faute des jeux que la faute de la console elle-même ou de Microsoft. C'est que quand je choisis une option, j'aimerais bien qu'on me dise explicitement à quoi ça correspond. Parce que le framerate ou la résolution, c'est vague et à l'œil nu, t'as pas forcément la possibilité de savoir vraiment à quoi ça.
Toi, tu voudrais une petite ligne de texte pour expliciter, ne serait-ce que pour aussi le grand
genre
public, ce que ça apporte.
Par exemple, quand tu choisis le mode framerate, en termes de résolution, ce que ça implique, à quel niveau ça la met et tout, parce que la console en elle-même, d'une manière générale, upscale en 4K. Mais donc, c'est pas forcément de la 4K native qui apparaît sous tes yeux. Donc, j'aimerais bien un peu plus de clarté à ce niveau-là. Parce que quand je faisais mes captures, bah, je les envoyais à Poufy. Et après, je discutais avec Poufy. Je dis, bah, tu vois, je pense que là, c'est comme ça et là, c'est comme ça. Mais on n'avait pas forcément les détails. Alors, ça a été... Et dans le cas de Yakuza Like a Dragon, où je connais un peu de monde, j'ai essayé de me renseigner plus directement. Et j'arrivais pas à avoir de réponse. J'ai demandé à Microsoft aussi, j'ai pas eu de réponse non plus. Alors Sega a fini par publiquement donner des détails, donc je vais vous expliquer. Mais en tout cas, pour ce qui est de Dirt 5, vous avez trois modes d'affichage, dont un qui n'est accessible que chez les gens qui ont une télé compatible 120 Hz. Ce qui n'est pas mon cas.
D'accord. Parce que tu n'es pas Poufy.
Et de toute façon, nos outils de capture ne nous permettent pas de capturer en 120 Hz. Donc on est forcément limité à ce niveau-là. Mais donc, vous avez trois modes d'affichage sur Dirt 5. Le premier, c'est le mode fréquence d'image élevée, donc pour le frame rate. Là, vous avez de la 4K dynamique et du 60 FPS.
En même temps
Oui, en même temps, mais
constant,
voilà. Vous avez ensuite le mode résolution élevée. Là, vous êtes en 4K 60 FPS aussi, mais la résolution peut descendre vers 1800p. Ça ne descendra jamais en dessous de 1800p. Mmh. Parce que, en fait, ce qu'on appelle la 4K, c'était un peu détourné de son sens. Il y a la Ultra HD et il y a la 4K encore au-dessus. Donc, en fait, par exemple... je crois que ce qui est vraiment de la 4K, c'est du 2160p, ce que la Xbox Series X peut gérer. Mais ce qu'on appelait jusqu'à présent l'Ultra HD, c'est plus du 1440p, tu vois. Mm-hmm. C'est au-dessus du 1080p, donc ce qu'on appelle Full HD.
C'est intermédiaire entre
les deux. Mais donc là, pour le coup, Dirt, il est, quand on est en mode résolution, il va au-dessus du 1440. Il est au-dessus de la Ultra HD de toute façon. C'est 1800p ou 2160p. Et en plus de ça, vous avez le mode performance auquel moi, je n'avais pas accès, qui est là pour les écrans 120 Hz, où ça va entre 1080p, donc Full HD, et 1440p. Mais par contre, là, le framerate va à 120, donc pour un jeu de course, c'est quand même appréciable.
C'est ce qu'il faut. Ouais.
Mais par contre, les graphismes, eux, prennent un petit coup pour afficher ce framerate-là.
Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que tu vois genre d'une frame à une autre que d'un coup ça décroche un tout petit peu? Alors, pour conserver la fluidité, comment ça se passe?
Là encore, moi j'ai pu utiliser que le mode framerate et le mode qualité d'image, parce que le mode performance, j'y ai pas accès. Mais je notais que sur le mode framerate, il y avait des ralentissements que je ressentais pas en fait dans le mode framerate. En termes de résolution, tu sais, si ça passe de 1160p au 1800p, en cours de route, c'est assez difficile.
Oui, sur un jeu avec en plus une image qui va très vite, voilà, des décors qui défilent assez rapidement, finalement.
C'est assez difficile de le voir à l'œil nu. Là où tu peux t'en rendre compte, je pense que c'est si tu fais un screenshot exactement du même endroit à un moment où il y a une baisse de résolution. Mais dans un jeu de course, c'est impossible.
Oui,
c'est
le mouvement est permanent.
C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas laissé la possibilité de voir la vitesse du framerate, etc. Alors.
Un c'est compteur comme sur PC,
quand
par exemple.
Sur PC, etc. C'est comme bien pratique.
Et en plus,
quand on teste, quoi.
Et en plus, il faut garder à l'esprit que Dirt 5, c'est un jeu cross-gen, donc n'a pas été conçu spécifiquement pour les nouvelles consoles. Donc de base, c'est pas une vitrine graphique. Ouais. Là,
c'est plus un upgrade de la machine.
Que t'as pas eu l'impression de vraiment mettre un pied dans la next-gen en essayant Dirt 5 sur Series X.
En fait.
Moi, en regardant les vidéos, effectivement, j'ai pas cette impression. C'est fluide, c'est rapide et tout.
Voilà, mais rien ne t'impressionne. C'est pas
un truc de fou qui me dit, fait dire que
Le ressens vraiment, c'est quand tu joues sur ta télé vraiment, tu vois que la résolution est plus élevée et que le framerate est plus stable et que ça va vite, etc. Là où tu sens pas vraiment de gap, c'est sur la sophistication des décors ou des modèles de voitures, etc. Je pense que là où on va commencer, pour un jeu de course en tout cas, là où on va commencer vraiment à sentir la next-gen, c'est quand Microsoft va sortir ses propres jeux, parce qu'on sait qu'ils ont un peu des références avec Forza, aussi bien Forza Motorsport que Forza Horizon.
Alors Forza dédié, je pense que ça va être une tuerie. Hein.
Là, voilà.
Déjà qu'ils sont magnifiques sur Xbox.
Je pense que quand on va vraiment taper dans du Forza, là, on va vraiment voir ce que ça propose. Là, Dirt, bah, c'est une série très
connue.
C'est
une entre-gène, quoi.
Mais malgré tout, niveau budget, c'est certainement pas un Forza.
C'est pas niveau en jeu non plus. Donc,
voilà. Et en plus, c'est un jeu cross-gène qui sort sur un nombre assez important de machines. Donc
il faut s'adapter.
Donc, quand j'ai lancé le jeu, je me suis pas dit, ces graphismes incroyables. Mais par contre, j'ai noté que en fait, c'est bizarre, hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez que quand on est passé de nos télé cathodiques aux télé 720p ou 1080i, 1080p, tout ça, au début, certaines personnes disaient « ça change rien ». Et tu pouvais le penser. Mais mine de rien, après avoir joué une première fois sur un écran HD, quand tu repassais sur un cathodique, tu disais « ah ouais… »
ça bave, c'est beaucoup moins
fin. Là, je comprends. Et bien, le gain en résolution, mine de rien, l'image, elle est plus colorée, elle est plus nette. Tu le sens malgré tout. Enfin, pour l'avoir quand même maintenant utilisé un certain nombre d'heures, je le sens. Et je le sens plus, par exemple, que je le sentais sur PS4 Pro. Parce que moi, je n'ai pas de Xbox One X. Donc, ma seule, on va dire, console haut de gamme que j'avais, c'était la PS4 Pro. Et même si sur certains jeux, tu voyais quand même des différences, en termes de résolution, c'était souvent du checkerboard, tu sais, de la résolution dynamique. Donc, t'étais rarement vraiment en 4K sur PS4 Pro. Donc là, sur la Xbox One Series X, je le sens vraiment.
Mais d'une certaine manière, pour moi qui ai encore l'occasion ou le malheur, je ne sais pas, mais de switcher entre une PS4 Pro ici et une FAT chez moi, pour quand même la plupart des jeux, même des jeux qui ne sont pas forcément les plus ambitieux graphiquement, quand tu reviens sur une FAT, tu constates quand même à chaque fois la différence et le gain que tu as eu, que tu ne mesures peut-être pas quand tu es justement face au jeu, quand il tourne merveilleusement bien, mais que tu, comme tu le disais, te reprends dans la tronche à partir du moment où tu reviens en arrière.
Ouais, ben là, moi, ce qui m'a aidé pas mal aussi à me rendre compte, c'est que pour la première phase de mon test, je passais non-stop sur les mêmes jeux, sur One S et sur Xbox Series X. Et donc là, vraiment, tu sens le gap. Et ce qui est marrant, c'est que, pour vous raconter ma life, ma fille fait un blocage sur La Reine des Neiges en ce moment, comme beaucoup de petites filles. Et donc, elle veut regarder souvent La Reine des Neiges 2 en Blu-ray. Et ce n'est pas un Blu-ray 4K, c'est un Blu-ray normal. Et je trouve, pourtant, c'est du Disney en image de synthèse, mais la résolution, maintenant, je le vois, tu vois, quand c'est du 1080p, où c'est vraiment de la 4K, bah je le sens. Et donc, pour passer à l'autre jeu auquel j'ai beaucoup joué sur Xbox Series X, c'est donc Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon. Et là aussi, il y a plusieurs modes d'affichage. Et j'ai galéré pendant des semaines et des jours, même pour essayer d'avoir des infos au sujet des différents modes. Et j'ai pas eu de réponse. Sauf qu'hier, Sega US a fait un stream du jeu et ils ont donné plusieurs éléments de réponse. J'ai pas la totalité des réponses, mais j'en ai certaines et je vais vous les donner. Donc il y a trois modes d'affichage dans Yakuza Like a Dragon sur Xbox Series X. Vous avez le mode normal, le mode résolution élevée et le mode framerate. Et je sais à quoi correspondent deux des trois. Le mode normal qui, je pense, est le meilleur des trois parce que c'est vraiment le meilleur des deux mondes en termes
équilibré
d'affichage. Voilà. Vous permet d'avoir du 60 FPS stable en 1440p, donc pas en full 4K, comme on dit. À côté de ça, vous avez le mode résolution qui, lui, est en full 4K. Et quand vous, là, pour le coup, sur Yakuza, tu peux faire des screenshots, des comparatifs. Là, tu sens que la full 4K, ça se voit.
Ça saute aux yeux.
Mais par contre, vous passez en 30 FPS. Et quand vous jouez à un même jeu en 60 et en 30, vous avez l'impression d'un seul coup que le jeu tourne au ralenti. C'est assez. Les Yakuza, jusqu'à présent, qui tournait avec le Dragon Engine, était toujours en 30 FPS, que ce soit Yakuza 6 ou Yakuza Kiwami 2 ou même Judgment, c'était du 30 FPS. Mais quand vous avez la possibilité de passer du 60 au 30, vous n'avez plus trop envie de jouer en 30 FPS. Et à côté de ça, vous avez un mode framerate. Et donc le mode framerate, évidemment, c'est du 60 FPS. Ça, visuellement, tu le vois tout de suite. Par contre, quid de la résolution? Je n'en ai strictement aucune idée. Ça n'a pas été confirmé. Donc, moi, si je pouvais vous donner un conseil, c'est de jouer en mode, et que vous avez un écran
4K,
évidemment, ça serait de jouer en mode normal. Vous ne serez pas en full 4K, mais le ratio qualité FPS, graphique, hein. Et 60 FPS, c'est vraiment le truc le plus agréable.
Parce que ce qu'on se privilégie à chaque fois, en général, c'est plutôt la fluidité, quoi.
Ouais. Et là, en plus,
oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a systématiquement aussi le choix. C'est aussi des préférences personnelles.
Après,
tu dépends des jeux.
Ça dépend des jeux.
Sur
voilà.
Un jeu de bagnole, il vaut mieux.
Ouais, complètement.
Un jeu de combat, il vaut mieux aussi. Ouais. Par contre, tu vois, quand t'as des expériences très cinématographiques à la Last of Us 2, par exemple, jouer en 30 FPS,
ouais, ça suffit.
Pas forcément le truc le plus handicapant.
Ouais,
mais
ça suffit.
C'est vrai que quand tu commences à t'habituer à jouer en 60 FPS, ça t'apporte un confort, que tu réalisais pas forcément auparavant et qui est quand même super appréciable. Mais moi, ce qui m'étonne, en plus, il est question de jeu cross-gen. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'est pas d'emblée du 4K, du full 4K 60 FPS.
C'est ce que j'allais dire. Il y a un truc qui me dérange énormément quand même avec la console next-gen. C'est que on doit encore faire des choix.
Oui, oui, j'étais étonné.
C'est quand même assez hallucinant de se dire que des machines dont on nous vante la puissance, la rapidité, et je ne sais pas quoi d'autre dont elles sont capables. Je n'ai pas eu les machines en main encore pour l'instant.
De vider ton portefeuille.
Mais on est encore en train de nous balancer des modes performance, modes visuels.
Oui, mais on est monté d'un cran.
Comme
sur PS4 Pro. En fait.
Bah oui, exactement. Même si on est monté d'un cran, je ne comprends pas comment on peut encore se retrouver avec des choix comme ça. Alors j'imagine que peut-être.
Si, parce que
c'est le début.
Sont, voilà,
parce que c'est le début des machines.
Et puis ils rajoutent des choses à chaque fois aussi.
Et qu'il faut, essayer de les dompter et que c'est du cross-gen, évidemment. Ouais. Mais je veux dire, peut-être qu'à un moment, il va falloir aussi que. On nous vend des choses qui soient plus solides et plus concrètes à base de le jeu il est en 4K et 60 FPS et c'est comme ça et pas autrement.
Oui, et que ça devienne la norme
solide,
sur l'ensemble des productions
norme,
de l'industrie.
Parce que là, pour l'instant, pour un début, c'est quand même, je trouve, un peu, flippant. C'est dur de vendre des machines qui sont censées être surpuissantes en disant oui, mais finalement.
Vous ne pourrez pas être
pas avoir tout comme vos copains sur PC par exemple.
C'est le problème d'un début sans exclu.
Ouais,
il faut composer avec des jeux qui sortent sur au moins deux générations et encore deux générations. Enfin, je veux dire, chez Xbox, c'est une gamme de machines finalement, de la One S à la Series X. Il y a un gap quand même assez.
Dans 5 ans, on aura
tu gagnes,
220 FPS.
Tu gagnes aussi en temps de chargement. Hein. Ça, et ça, mine de rien. Ouais. Pour là encore être passé.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de framerate et compagnie, mais
t'étais pas
y a
là,
avantages.
T'étais pas là la semaine dernière, plus beau, mais je donnais l'exemple de Resident Evil 2, par exemple. Pour y avoir joué genre à quelques minutes d'intervalle sur One S et sur Series X, genre les temps de chargement de Resident Evil 2 qui paraissaient pas particulièrement longs de base,
on est tellement habitué que.
Il te semble interminable après avoir
attention
joué
avec
sur
ce mot, attention, très attention.
Oui,
non, parce que
il peut déclencher la Troisième Guerre mondiale.
Il faut savoir raison garder.
Parce que tu passes genre de 30 secondes de chargement sur One S à, de mémoire, 3 secondes.
Non, 7, je crois.
Enfin, 3, moins de 10 secondes sur Series X. Et donc, ça change beaucoup de choses. Et donc là, pour des jeux comme Dirt ou Yakuza Like a Dragon, c'est pareil, les temps de chargement sont quand même assez courts. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on parte sur un début de gène avec une claque visuelle inédite. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui vont soit recevoir des mises à jour, soit sortir partout en même temps. Donc il faudra vraiment attendre. Et maintenant, aussi bien du côté de chez Sony que du côté de chez Microsoft, on a des studios capables et en grand nombre. Donc des exclusivités dans un camp comme dans l'autre, va y en avoir. Et je pense que c'est là, avec Tenten pour Forza, par exemple, ou... au studio de Gears
343
leur nom m'échappe. Si c'est The Coalition,
bah c'est The Coalition.
Quand ils vont faire un vrai Gears,
on les cite tous,
mais non, mais c'est qu'ils en ont tellement maintenant des studios que
Ninja Theory, non,
Toys for Bob.
Non, mais ce que tu es en train de dire, c'est que la claque qu'on peut attendre justement avec l'arrivée d'une nouvelle génération, en fait, on va pas la prendre à l'arrivée des consoles en question, on va la prendre
de toute façon. Mais quelque part, c'est toujours pareil. Je veux dire, je pense qu'ils ont les kits de dev tellement tardivement parce que les constructeurs veulent mettre le plus possible de technologie dedans. Donc du coup, les gens, ils attendent au dernier moment.
Oui, mais
ils n'ont pas le temps de développer comme ils veulent.
Sur toutes les autres sorties, on avait quand même des jeux. Alors, on a toujours eu des jeux cross-gen ces dernières
des
années.
Jeux first party.
Mais tu avais toujours un peu d'exclusivité qui tirait véritablement parti de la machine, de ses capacités techniques. Évidemment, elle n'était pas poussée à bout. Il faut toujours attendre des années pour ça.
Oh bah oui,
mais
oui.
T'avais toujours l'impression à la sortie d'une nouvelle console que avec tel ou tel jeu tu mettais le pied dans ce qu'allait être justement le futur du jeu vidéo pour les années à venir.
Mais j'essaye de me souvenir là de la sortie de la PS4 et de la Xbox One. Je me souviens que graphiquement sur One t'avais Rise. Qui était très beau, mais qui ludiquement parlant était.
Ah, je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre les jeux de lancement.
Ah, puis il y avait le FPS sur PS4. T'avais le FPS de
Killzone Shadow.
Ouais, Killzone qui était quand même super beau aussi. Mine de rien.
Mais
pas comme avec Knack, ça c'est sûr. Knack nous a fait plus.
Attends, tu vas avoir Knack 4 sur PS5, tu vas pleurer.
Qu'est-ce qu'ils ont fait du 3?
Non, mais
je sais pas. Ils ont
essayé de me souvenir du dernier jeu de lancement sur une console qui m'a fait l'effet de Mario 64, par exemple.
Zelda Breath of the Wild ici, mais.
Breath of the Wild, mais pas techniquement.
Ah si?
Ah bah si, quand même.
Ah bah si. Ah si, techniquement, mais, mais plus par son moteur physique. Et,
ah voilà,
c'est
ça. Je parle juste visuellement. Breath of the Wild, quand tu le lances sur Switch la première fois...
Non, c'est la direction artistique qui est magnifique.
Après, la direction artistique est
physique. Non, là, je parle uniquement d'un point de vue graphique, technique. Technique. Tu dis, oh putain, là, ils ont poussé le truc à bout.
Bah, c'est vrai qu'en fait...
À part The Last of Us 2, je vois pas.
Mais c'est pas un jeu de lancement.
Si.
Dans ta tête.
Tu vas voir sur la PS5, quand elle va arriver, tu vas pleurer.
Oui, tu vas pleurer. Eh, mais alors, attends, j'ai d'autres infos.
Tous les jeux Naughty Dog sur PS5, tous.
Il y a une fonctionnalité dont j'avais pas vraiment parlé la semaine dernière, qui est assez intéressante, mine de rien, pour les gens qui s'intéressent aux jeux déjà sortis ou plus anciens, etc. C'est l'auto HDR.
Ouh là là,
donc,
tu vas nous faire dire deux mots là.
Par exemple, la Xbox Series X, elle permet, et là évidemment, je le recommande uniquement pour les gens qui ont un écran compatible HDR et avec du HDR de bonne qualité, parce que c'est pas
ouais,
systématique.
Oui, alors, HDR 10, 10 plus, 100 000, je sais pas quoi.
Le auto HDR, ça ajoute ce mode d'affichage à des jeux pour lesquels ils n'ont pas du tout, enfin sur lesquels il n'a pas du tout été réfléchi. Par exemple, je me suis rendu compte hier en faisant des essais chez moi que Shenmue peut bénéficier de l'auto HDR. Non mais mine de rien pour les nuits
et ça change beaucoup de choses,
les néons,
ouais,
les trucs comme ça, bah ça fait
un éclairage de malade quoi.
Ça fait ressortir et ça donne un truc un peu plus naturel. Alors là encore c'est fait de manière automatique donc mais c'est un petit
oui, c'est
plus
pas optimisé mais c'est déjà bien. Ouais.
Ça c'est pas uniquement la console qui te permet de lancer ton jeu rétro comme comme il l'était à l'époque, tu vois, ça ajoute un petit truc.
Une belle upgrade
un truc
en plus. Ouais.
Oui, oui, Thomas, vas-y. J'ai une petite question plus triviale, on va
plus
dire.
Terre à terre.
Maintenant que tu as pu jouer quand même pas mal de temps, justement, et là, des premiers jeux cross-gen, la prise en main de la manette et les sensations en jeu, tu as senti une petite différence ou on est vraiment sur l'évolution de ce qu'était la One?
J'ai pas eu de manette en main, je me suis pas dit à un moment, on est sur une manette, une vraie nouvelle manette. Par contre, le confort, il est clairement, accentué.
Ah bah ça, personne n'en doute. Ils étaient déjà leaders en termes de prise en main.
J'adore le petit grip qu'ils ont ajouté sur les poignets et sur les gâchettes. Le bouton share, alors particulièrement dans notre domaine d'activité.
En plus, il est bien au milieu.
Ouais, il est super bien placé bien et passé. Super utile parce que les screenshots sur Xbox One, c'était la. J'allais dire un gros mot. C'était
on va dire qu'ils se sont mis au niveau, en fait. Voilà, ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient.
C'est les photos que tu as mises sur Twitter, c'est ça? Ouais. Tu les as fait directement avec ça? D'accord.
C'est pour ça que je dis que c'est pas une révolution, mais c'est un ajout qui était attendu et qui est super appréciable.
Qui facilite notre travail.
D'une manière générale, l'ergonomie de la machine est meilleure, même si là encore l'interface, elle est très proche. Mais la manette est vraiment agréable. Alors, sachant qu'on n'a pas pu utiliser de DualSense encore. Ouais, ça se trouve, après avoir utilisé
attendons
la DualSense,
voir,
on va se dire, ah voilà, la vraie next-gen en manette, elle est là. Mais en tout cas, juste en comparant deux générations de Xbox, la nouvelle manette est plus agréable, vraiment. C'est pas, je te dis, j'ai pas eu des sensations de dingue en me disant, oh là là, jamais ça, on avait ça avant. Mais malgré tout, elle est meilleure. Tu vois, sachant qu'en plus,
même sur Dirt, etc. Ouais,
ouais, ouais. Mais sachant qu'elle est vendue au même prix que les manettes Xbox One actuelles, j'aurais limite tendance à dire aux gens qui ont une One X, par exemple, ou même qui vont rester un peu encore sur One le temps que les jeux next-gen arrivent vraiment,
de l'acheter.
Acheter la manette, comme elle est compatible, acheter la manette en avance.
Ça, c'est bien ça.
Et comme ça, elle vous servira de toute façon même sur un PC. Moment ou un autre. Mais parce qu'elle est beaucoup moins chère qu'une manette Elite, qui reste quand même un produit haut de gamme en termes de tarification.
Oui, puis t'as un entre-deux justement, entre ce qu'étaient les manettes de One
et
les
en plus.
Moi qui n'ai pas de manette Elite, je trouve que l'entre-deux justement est super appréciable. La nouvelle croix directionnelle, elle est chouette. Ouais. Franchement, le bouton cher, moi, il me sert vachement. Donc je trouve ça top.
Ok, tu seras notre nouveau CM.
Hein ?
Ce sera notre nouveau CM du coup.
Enfin, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, à partir du moment où tu m'as donné la possibilité de faire des screenshots dans mes jeux, j'en fais des
milliards.
Non, mais j'en prends des tonnes. J'ai des centaines.
Attends,
et des
centaines. Attends, ma Switch, elle est blindée.
J'en prends beaucoup trop sur Switch.
Oui,
c'est n'importe quoi.
Je sais plus quoi en faire. Il faut que j'en jette la moitié.
C'est parce que j'étais toujours fasciné par la presse jeux vidéo quand j'étais gamin avec tous ces screenshots, etc. Ouais. Et
c'était pas les mêmes conditions, je crois,
non.
À l'époque.
Oui, ah bah j'avais essayé, tu sais, quand tu
dans les prendre dans le noir et
à la fin des magazines, ils te disaient si vous voulez envoyer vos scores, etc. Mettez-vous dans le noir avec à telle distance.
Moi, c'était des diapositives super relou.
À telle distance de votre écran, j'ai essayé une fois, j'ai gâché une pellicule.
Ça nous est tous arrivé, ça.
Sur le truc, on voyait que dalle.
On fait un jeu, on teste un jeu. Moi, c'est une anecdote à la con, mais bon, je pense que tout le monde la connaît. On teste un jeu, donc pendant 2 heures, on fait 3-4 rouleaux de photos et on se rend compte à la fin que l'appareil était fermé. T'as l'amateurisme de merde, toi. Donc, du coup, putain, t'as gâché 4 pellicules et t'as perdu ton temps.
Là, c'est comme ça qu'on apprend, écoute.
Tu sais que pour le coup, ouais, ça nous est plus arrivé. Hein,
si tu regardes les boîtes de jeux Mega Drive ou Super NES, etc., et que tu regardes les photos à l'arrière, maintenant, avec l'œil et l'habitude, tu te rends compte des photos qui ont été prises, pas directement depuis le logiciel,
mais à travers un écran.
Via, voilà, ouais, bien sûr. Ça se voit, t'as une sorte de. C'est bombé
un
peu.
Un petit reflet.
Et sur certains, des fois, t'as même
le bord de l'écran.
Ou ta pose écrit dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Tu figeais le jeu pour essayer d'avoir une image.
Ah bah c'était fort, nous on essayait de pas avoir le mot pose justement. Et sur certains jeux.
Quand il clignotait, ouais.
C'était une tannée, effectivement là tu gâchais une pellicule entière juste pour essayer de prendre une photo quoi.
Et donc on s'écarte un peu, mais la facilité de partager les screens, de prendre et de partager les screenshots et les vidéos sur Xbox Series X grâce à la manette en partie, ça, c'est pas mal. Et j'ai un dernier truc sur que je veux aborder. Hier j'ai pu télécharger la mise à jour next-gen de Gears 5. Pas vraiment encore eu l'occasion de l'essayer, mais je trouve que l'info est intéressante parce que ça peut vous donner un ordre d'idée pour les jeux cross-gen, Smart Delivery, tout ça, à quoi vous pouvez vous attendre.
Délivrance intelligente.
Après, Gears 5, c'est un jeu first-party, donc il y a peut-être un peu plus de travail qui a été fait pour la next-gen, mais le patch fait 70,48 gigaoctets. Donc le patch...
C'est un jeu.
Le patch est plus lourd que certains jeux.
Donc, non, mais c'est malin, c'est pour vendre des extensions de mémoire après.
Après, ouais. Peut-être que.
Elle va être vite saturée la console. Hein.
Ah, elle sature vite.
Mais même sur PS5. Hein,
chez Orange aussi, ils vont vite être saturés. Ouais.
J'ai téléchargé beaucoup de trucs donc pour faire mes tests, donc j'ai dû en supprimer déjà pas mal, mais ouais, j'ai déjà dû faire de la place.
Donc au cloud.
Après, j'ai pas vérifié si. Ces 70 venaient en supplément du poids du jeu original.
Si, total.
Si ça remplaçait certains.
Ça serait bien de savoir ça, effectivement.
Parce ça. Je vérifierai.
Si ça se rajoute, c'est chaud.
Mais ça, comment dire, ça vous montre le poids du truc. Par contre, j'ai lancé une mission vite fait, mais genre 5 minutes même pas pour voir. C'est vrai que c'est beau. Quoi. Je vais vous faire des screenshots et des vidéos, donc vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Mais ce que je disais dans mon dossier, c'est que pour les gens qui ont été assez réfractaires à la marque Xbox jusqu'à présent, ou qui ont lâché, qui étaient sur 360 et qui sont passés sur PS4 par exemple, était loin d'être le seul, hein, j'en connais plein. Avec le Game Pass, qui quand même te permet de jouer un nombre de jeux conséquents à des frais limités.
Bah c'est une centaine.
C'est peut-être un bon moment pour, si les licences évidemment Xbox vous intéressent, et que l'offre du Game Pass peut intéresser, parce que sur le Game Pass, il n'y a pas que des jeux Microsoft, hein, tu vois, il y a plein de trucs. Techniquement parlant, ça peut être intéressant de rattraper son retard.
De rechanger de crèmerie pour le coup.
Pas forcément de changer de crèmerie, mais
de revenir peut-être.
De se dire peut-être à un moment... En plus, en complément, etc. Ça peut être intéressant. Et après, si le démat vous, comment dire, ne vous repousse pas, la One S, la série S, pardon. Voilà.
on va faire l'erreur pendant toute la
génération. La série S, ça peut être un bon compromis parce qu'elle va jusqu'en 1440p, donc de l'ultra HD, et il y aura toutes ces exclusivités, un bon framerate, etc. Donc ça peut être intéressant. Le rapport qualité-prix de la série S.
2,99€, c'est
si,
comme ça.
Là encore, si vous ne tenez pas au jeu physique, ce qui est mon cas.
C'est une Switch, quoi.
Donc avec le combo série S plus Game Pass, il est quand même assez intestable en termes de rapport, qualité-prix.
Bah, d'ailleurs, qui va la prendre sans s'abonner au Game Pass, tu vois? Je pense que c'est vraiment...
Ah bah là, ça serait une connerie,
c'est la formule que la quasi-intégralité des joueurs vont choisir, parce que s'il faut que tu payes tes jeux à l'unité en démat, donc au prix fort, jamais remisé, etc., c'est vraiment pas une bonne affaire.
Et si Microsoft met l'accent comme ça sur le Game Pass, c'est pas pour rien, tu vois. Mais, et d'ailleurs, je pense... Là c'est trop tôt, c'est trop tôt pour l'affirmer... Mais je ne serais pas étonné que sur la génération dans son ensemble, la communication de Microsoft mette beaucoup plus l'accent sur la série S que sur la One X. Parce que vis-à-vis du grand...
Series X, pardonnez-moi.
Oui, c'est compliqué. Vous savez ce que je veux dire. Mais
on va mettre un petit compteur d'erreur en bas à droite de l'écran.
Mais ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire.
Un erreur sur chaque erreur.
Je pense que vis-à-vis du grand public et de la stratégie actuelle de Microsoft, ils ont plus de potentiel via la série S que via la série X. Après, est-ce que... on verra.
De toute façon, je pense qu'ils veulent tous nous faire venir vers ce mode-là hein, de jeu. Hein. Enfin, de... comment dire.
Du démat en service,
c'est ça,
etc.
Démat en service,
bah oui, clairement.
De consommation. Voilà,
bah c'est même plus intéressant pour eux, hein, finalement.
Ah bah, carrément.
Je propose donc qu'on organise la résistance.
Ah bah,
c'est vrai. Qui naît aujourd'hui.
Moi, je serais... Ah, après, c'est indéniable, parce que pour le besoin de mes tests, j'ai utilisé pas mal de jeux dématérialisés. Le confort d'utilisation et le côté pratique du truc, il est indéniable. Et même par rapport au mode Quick Resume. Profiter du mode Quick Resume avec des jeux physiques, c'est possible, mais ça nécessite des étapes
supplémentaires.
Tu peux pas juste,
tu perds 10 minutes à chaque fois.
Tu peux pas juste dire tu es sur un jeu physique, tu veux lancer un autre jeu physique que tu avais laissé en suspens. Si tu le déclenches tout de suite en te disant je vais avoir un message qui m'invite à insérer un disque, non, tu auras un message d'erreur et quand tu mettras ton disque, il va se relancer au début. Il faut aller sur le menu ou alors aller sur le menu, mettre ton disque et ensuite le lancer pour profiter du Quick Resume. Parce que sinon, ça
à condition que tu saches où se trouve ton jeu.
Ce qui
n'est pas toujours le cas. Même si c'est bien rangé, des fois, tu sais pas où il est.
Non, mais si tu l'as utilisé en Quick Resume, si tu l'as laissé en suspens en Quick Resume, ça implique que tu l'as utilisé il n'y a pas longtemps.
Effectivement.
Mais donc, tu vois, il y a un confort lié au démat qui est indéniable.
Ah oui, non, mais je le...
Mais moi, comme toi, je défendrais le jeu.
T'es un collectionneur invétéré.
Outre le côté collection, le côté propriété de ton jeu, qui est beaucoup plus clair quand tu as le jeu physique, même si avec tous les patchs et toutes les mises à jour, finalement, ce que tu as sur ton disque, c'est loin de
c'est,
ce
c'est
à quoi tu joues.
C'est une partie seulement des fichiers,
Mais oui, je défendrais le jeu physique.
Ça et le fait de rendre les jeux encore accessibles aux générations futures d'une manière ou d'une autre.
La préservation, tout ça, c'est autre chose. La
préservation des espèces.
Donc voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle sur la Series X.
Et j'ai joué au prochain épisode, bien sûr.
J'ai joué à un autre jeu, mais je ne sais plus, en termes d'embarras, je sais plus à quel moment ça s'arrête.
Bon, dis-le, c'est pas grave.
Attends, le podcast. On est le 13, le podcast sort le 14. Non, dans tous les cas, je peux rien dire.
Bon, ben voilà. Ça règle l'affaire.
C'est dommage parce que c'est un jeu attendu en plus.
C'est dommage.
Oh là là, il n'a pas encore été annoncé.
Un jeu surprise qui sort le jour de lancement de la console.
Putain, ça craint à mort.
C'est
la première claque.
Si vous voulez savoir, le premier jeu qui nous obligeait pas à choisir entre fluidité et affichage en plus. C'est ça qui est complètement fou.
Pour le coup, je crois qu'il te demande pas de choisir.
Ah, ben voilà, tu vois.
Quand tu commences à
tu vois quand tu veux
il tourne en 900p et 25 images
non, ça, non, en fait. non seulement il te demande pas de choisir de mémoire et en plus il est vraiment réussi graphiquement donc mais après c'est un genre particulier donc ça s'adressera pas à tout le monde mais on en parlera plus tard
voilà c'était Goat Simulator donc voilà
exactement
plus jamais
3 Merci beaucoup Romain pour ce tour d'horizon donc des jeux Xbox Series X je me suis pas trompé. Et bientôt, on parlera de la série S, mais chut, parce que les embargos encore, tout ça. Machin.
Et est-ce qu'un jour, on parlera de la PS5 ?
Non, jamais.
Est-ce que ça sera juste les youtubeurs japonais qui auront droit d'en parler ou...
Ils en ont pas assez, donc il faudra attendre un peu notre tour.
D'accord.
Et bien, pour
si vous voulez, on peut jurer d'être étonné par toutes les fonctionnalités.
Exactement.
Et de devenir hystérique en voyant un personnage sauter. On peut peut-être faire ça.
Tout à fait, Romain. Thomas, pardon, tu as parfaitement raison.
C'est un autre
Thomas,
type d'erreur.
Thomas m'a eu.
Ah bah tiens, je l'appelle Poufy, donc c'est pas grave. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout marche comme prévu.
Okay.
Débat numéro 2 maintenant, chers amis, ça va être Baldur's Gate 3.
Ouais, c'est pas vraiment un débat. Hein.
L'accès anticipé. T'as vu, j'ai dit l'acté anticipé.
Ouais, et l'acté anticipé.
C'est toi, Plume, qui va nous en parler. Tu vois, je t'ai pas appelé Poufy.
Pour une fois.
Avec ton masque de ninja.
C'est vraiment gentil, Julot, d'arrêter ça.
Tu connais Junold ?
Ouais, absolument, ouais.
Ben voilà, c'est moi. Ça y est, c'est parti.
Alors, Baldur's Gate 3, l'Early Access qui est arrivé la semaine dernière, donc pendant que j'étais dans les abysses, personnellement.
Les abysses intenses,
quoi. Donc, Camille aurait pu vous en parler, mais il était très occupé de son côté. Donc moi, du coup, j'ai craqué. Voilà, je vous le dis tout de suite.
Ce que vous savez pas, c'est que Camille est là, mais il est à l'autre bout de la pièce.
Exactement.
Voilà.
C'est ce que je vois depuis tout à l'heure.
Donc j'ai craqué. Je l'ai vu arriver. Ça faisait un moment que, depuis son annonce, je me disais quand même, il faudra que j'essaye d'y jouer. Donc l'Early Access
est
arrivé sur Steam, GOG et je crois aussi sur Stadia.
D'accord.
Et donc Baldur's Gate. Très simplement, c'est un monument du RPG occidental, un des jeux les plus influents, le premier et un des jeux les plus influents qui soit sur le genre, 98, mine de rien, avec un moteur qui était assez phénoménal pour l'époque, qui a permis d'accoucher d'autres jeux, comme par exemple le Planescape Torment, qui lui aussi est un jeu incroyable. Il y a eu Baldur's Gate 2 en 2000 et depuis, à part une extension évidemment, il n'y a rien eu d'autre. Et c'était il y a quelques mois, on apprenait que c'était l'Ariane Studio donc, qui allait reprendre Baldur's Gate en main avec un troisième épisode, chose qui était un peu surprenante parce que c'est quand même un bébé de BioWare à la base et que on s'attendait plus du tout à ce que Baldur's revienne. Et donc l'early access, le premier truc que je peux vous dire sur ce Baldur's Gate 3, c'est qu'elle est vraiment très early, mais vraiment très 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 early. Le gros problème, mais en même temps on signe, on sait pourquoi on signe, hein, c'est que c'est vraiment pas un jeu qui est fini du tout. Alors on sait dès le départ, il y a que le premier chapitre qui est disponible. Bon, c'est amené à évoluer, il y a plein de jeux qu'on fait comme ça et ça s'est très bien passé jusqu'à leur sortie. Je vais vous citer par exemple Hades, quand il est sorti, quand il est arrivé en Early Access, il était dans un état déjà qui était impeccable, et ou encore Dead Cells aussi, si je me rappelle bien, qui lui aussi m'avait fait craquer en Early Access. C'est pareil, il évoluait parfaitement, il prenait les retours de différents joueurs. Là, l'Ariane, on sent qu'ils ont galéré cette année, que les reports, c'était pas pour rien, les différents reports de l'ouverture de l'Early Access, parce que vraiment le jeu est dans un état... difficilement recommandable si vous n'êtes pas vraiment un gros fan de RPG et de Baldur. Je veux dire qu'en termes de crash, de bug, ça peut vite être très très très... c'est limite humiliant par moment parce que vous êtes en plein combat et vous êtes en train de réussir un combat plutôt bien. Vous vous dites à la fin de ce combat, je pourrais enfin souffler et me faire plein d'expériences et looter plein de trucs. Et en plein milieu du combat, la fonctionnalité de mettre fin au tour d'un de vos personnages ne fonctionne plus. Vous cliquez dessus et ça ne marche plus. Et là, vous vous dites, mais comment c'est possible ? Et vous êtes obligé de recommencer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, il y a plein de cas comme ça, de cinématiques qui foirent complètement avec des personnages qui peuvent disparaître ou qui sont dans tous les sens, ou même de cinématiques qui se répètent alors que vous aviez bouclé la conversation. Il y a énormément de choses qui ne vont pas du tout. Un des gros trucs aussi, quand il y a plusieurs étages de déplacement, la caméra a un mal de chien à suivre le truc et elle ne sait plus du tout où donner de la tête. Et vous retrouvez avec un gros plan d'un mur dégueulasse. Bref, ça peut... Si vous n'êtes pas un minimum patient et que vous n'avez pas vraiment beaucoup d'amour pour Baldur, ça risque d'être un peu compliqué. Mais à côté de ça, même si c'est un peu tôt et qu'il reste beaucoup de choses à faire, c'est quand même extrêmement prometteur. Alors, je vous le dis dans l'article qui est paru il y a peu. Avec ce Baldur's Gate 3, vraiment des promesses assez monstrueuses en termes de jeu de rôle, des trucs qui font penser forcément à Divinity Original Sin 2, qui est leur chef-d'œuvre, à l'Ariane, qui est un RPG d'une ampleur folle, mais qui a peut-être pas les moyens non plus d'un The Witcher ou d'un jeu BioWare habituel. Divinity Original Sin 2, c'est que de la vue aérienne, beaucoup de texte, et il n'y a quasiment pas de mise en scène. Là, ils essayent justement avec Baldur's Gate 3 d'en mettre un peu plus, donc de mettre des cinématiques, comme je le disais, pour la plupart des dialogues, de mettre des cutscenes un peu partout. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est vraiment tout un ensemble de systèmes ultra complexes que vous percevez assez vite avec la création de perso qui est limite jouissive, vraiment, parce que vous allez évidemment créer le physique de votre personnage à partir de sa race. Et on n'a que 6 races pour commencer et je crois 8 classes ou le contraire. Je ne sais plus. Bref, vous avez un chiffre qui n'est pas très élevé de chaque côté parce que ça va être amené à grossir encore par la suite. Et déjà, rien que ça, c'est suffisant. Vous pouvez vous faire, moi, je me suis fait une drow roublarde, donc une elfe noire roublarde. Vous pouvez choisir des tonnes de choses en matière de classe, d'historique, de sous-classes, de sorts. Ça fait vraiment un espèce de... une vraie fiche technique de votre personnage. Le seul regret, c'est qu'on ne peut pas choisir les jets de dés de chacune de vos caractéristiques, force, constitution, sagesse, etc. Ça, c'est vraiment le seul truc, à la limite, qu'on regrette. Mais en même temps, bon, tout le monde va gruger et va lancer 20 fois le truc avant d'avoir les bonnes stats. Bref, déjà rien que là, on voit que ça ouvre vers tout un tas de systèmes vraiment assez impressionnants. Et quand on arrive dans le jeu, qui pour l'instant en termes de scénar est pas très très clair, hein, vraiment le premier chapitre c'est vous avez une larve dans la tête qui peut vous transformer en flagelleur mental et faut juste trouver un moyen de le retirer. Et c'est là que vous allez rencontrer d'autres personnages, des personnages qui vont devenir vos compagnons, d'autres qui vont que vous allez soit essayer de berner, soit essayer de battre, soit essayer justement de séduire. Bref, il y a plein de choses comme ça. Donc quand vous arrivez dans le jeu, vous vous rendez compte que déjà tous les éléments du décor sont quasiment tout, enfin tout est quasiment interactif, que vous avez comme dans Divinity Original Sin 2, des possibilités de jouer avec les éléments. Par exemple, il y a des trucs, vous pourriez, si vous n'êtes pas habitué à Divinity, vous ne sauriez pas que, par exemple, balancer un petit peu de graisse au sol, déjà, ça va empêcher votre adversaire de se mouvoir comme il en a envie quand vous êtes dans des combats. Et que si vous balancez un petit, ne serait-ce qu'une étincelle, un petit trait de feu, ça va coller évidemment un petit incendie dans le tout. Il y a aussi des colonnes, par exemple, que vous pouvez, si vous avez les pouvoirs qui correspondent, évidemment, faire tomber sur vos ennemis. Il y a énormément de choses. Alors, ce qui est un peu embêtant pour les fans de Baldur, c'est que c'est un système de combat au tour par tour pour vos équipes de maximum 4 persos qui fait beaucoup penser à Divinity forcément et plus trop à Baldur. Mais après, c'est un choix. C'est un choix, on va dire, conscient des développeurs pour adapter Baldur à leur moteur, à leurs ambitions qui ont l'air vraiment mais assez démesurées, parce que même le premier acte, la région est quand même assez vaste, assez dense. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, pas de chemin prédéfini, c'est très libre vraiment, et vous allez sûrement, si vous êtes un fou furieux, un acharné, vous faire plein de personnages différents, recommencer à chaque fois pour voir quelles sont les possibilités à tous les niveaux. Peut-être que même vous réaliserez qu'il y a des personnages que vous avez pas rencontrés, d'autres que vous avez rencontrés mais dans les mauvaises conditions. C'est un jeu qui donne le vertige, voilà, qui donne déjà le vertige, autant pour tous les bugs qui restent à corriger que pour ce qu'il promet vraiment en termes de pur roleplay, si vraiment vous voulez la jouer roleplay, avec notamment cette fonctionnalité que Camille avait déjà décrit, je crois, il y a quelques mois quand il avait pu le voir la première fois, qui est d'avoir le D20 vraiment au cœur des débats, un gros D20 qui va résoudre tout en fait, et qui prouve que un jeu de rôle, c'est avant tout le hasard, tout simplement. Alors ok, vous avez vos compétences, vous avez vos caractéristiques, mais c'est le hasard qui va décider de chaque chose, et on n'est jamais à l'abri d'un échec critique, on n'est jamais non plus à l'abri d'avoir une bonne surprise avec une réussite critique. Bref, on sent que l'Ariane, comme je le disais dans le papier, veut se placer comme maître de jeu d'un vrai jeu de rôle, et ça c'est assez excitant, rien que ces premiers pas de Baldur's Gate 3 à constater, surtout qu'en plus on peut jouer en multi, donc vous pouvez aussi essayer l'expérience avec d'autres personnes quand ça fonctionne, évidemment. Bref,
c'était pas le cas de l'accès anticipé en multi.
Si, bien sûr, dans l'accès anticipé on peut se lancer dans le multi, donc c'est comment dire, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant, mais en même temps on a vraiment vraiment envie que les mois défilent très vite pour pouvoir en parler avec plus de certitude, plus d'assurance quant à ses qualités, parce que bon, après la narration, évidemment l'Ariane se débrouille plutôt bien, même si, comme je le disais, les cinématiques sont pas forcément toutes géniales, la caractérisation des différents personnages est plutôt bonne, l'écriture est plutôt réussie. Moi je sais qu'il y a un passage en particulier avec un écureuil, parce qu'on peut utiliser les compétences de dressage des parchemins de dressage, entre autres. Et je sais qu'il y a un écureuil avec lequel j'ai parlé qui m'a fait éclater de rire. Voilà. J'ai réussi à parler avec lui et à la fin.
C'était Sous-Partisan à ce moment-là ou...
Non.
Il parle pas du jeu, il parle dans la rue.
À la fin du dialogue où j'ai réussi, je sais pas par quel miracle, à discuter avec lui tranquillement. À la fin du dialogue, il te balance un truc et là tu l'imagines. Enfin, moi, je l'imaginais en loupard avec son couteau à cran d'arrêt, à limite, en train de m'agresser. Bref, il y a plein de. Il y a plein de surprises, il y a plein de trucs cachés dans cet Early Access. Maintenant, j'espère que les retours qui vont être donnés par les joueurs, parce que visiblement, ça a déjà séduit pas mal de monde, vont permettre à l'Ariane de bien progresser et que bah, du coup, le Covid s'arrêtera peut-être un jour aussi, qu'il puisse enfin rebosser un rythme normal, parce que ça a l'air vraiment, vraiment très, très prometteur. Voilà.
Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet. Et si vous voulez en savoir un peu plus de détails, allez lire l'article de Plume sur Gameblog, qui est en ligne donc depuis mardi. Donc n'hésitez pas, allez-y. Tout de suite, on va parler des tests de la semaine. Et les tests de la semaine. Bon, je vais commencer, Thomas, parce que toi, tu vas finir. Sur ton fameux jeu.
Ah bah vas-y, j'ai pas le choix de toute façon.
I am dead. Oui. Bah, je vais juste parler un petit peu de Art of Rally, auquel je n'ai pas joué, hein, je précise tout de suite. Mais comme Dopamine, on peut pas l'avoir avec nous sur le plateau, c'est un peu compliqué. Et c'est lui qui a fait le test. Bah écoutez, c'est un petit jeu de rally, moi qui m'avais tapé dans l'œil parce que je l'avais vu sur le net en vidéo. C'est un jeu indé. Ça a été fait par Fun Selector, ceux qui avaient fait Absolute Drift. Alors Absolute Drift, je sais pas si. Enfin, moi je le connais de nom, mais j'avais pas joué non plus, pour être honnête. C'est un jeu de rallye qui est vu du dessus en top down, un peu en 3D, qui est hyper minimaliste, hein, et les petites voitures elles sont toutes minuscules. Moi quand j'étais petit j'avais des mini bagnoles comme ça en plastique,
des micro machines, quoi.
Oui, c'est ça, ça m'a vraiment fait penser à ça, et du coup t'as l'impression de revoir un peu de nostalgie là-dessus. Alors il y a toutes les marques de bagnoles sauf qu'elles sont pas citées, hein, c'est t'as les Peugeot.
Ouais, enfin, tu les reconnais quand même. Tu vois la modélisation, voilà, des voitures, même si elle est minimaliste, tu sais tout de suite de quoi ils sont inspirés.
Opel, Citroën.
Mais c'est plus années 80-90 en fait, hein, au niveau des bagnoles. Donc là encore, ça joue pas mal sur la nostalgie.
Est-ce qu'on retrace du coup un petit peu l'histoire du rallye?
Exactement,
aussi.
Tout à fait. Et ça fait penser à Dopamine, en tout cas à World of Rally. C'était un jeu Neo Geo, ça, ou Arcade, je sais plus. Je crois qu'il était sorti sur Neo Geo aussi, ça, parce que ça me dit quelque chose. Où effectivement, bah, c'est de l'arcade pur, mais un petit côté simu quand même derrière, qui fait que bah, là, tu prends quand même du plaisir à essayer de prendre des bonnes trajectoires, à faire des sauts, effectivement, où tu dois bien te réceptionner, etc.
Simple à jouer, difficile à maîtriser.
À maîtriser, exactement. Non, pas sur celui-là.
Pour les amateurs du genre.
Mais il y a quand même un petit côté simu qui est pas mal sympa. Effectivement, comme tu le disais, Thomas, il y a un contenu historique qui est assez conséquent. Hein,
plus à Dopamine, a priori.
Exactement. Donc, on a les Lancia Stratos, Delta, Peugeot 205 Turbo. Bah, ça, c'est des voitures légendaires.
Voitures de Sega Rally aussi. Non,
pour ceux qui connaissent les.
Oui, L'Alpine aussi, si je dis pas de bêtises.
Ouais, tout à fait. Ceux qui connaissent un peu les marques de bagnoles, effectivement, qui ont fait l'histoire du rallye. Et du coup, voilà, on a voulu faire le test parce que Dopamine est pareil que moi. Hein, celui a tapé dans l'œil et il s'est dit, ah oui, il faut absolument que je le fasse. Et effectivement, il a eu raison parce qu'il a mis une super note de 8 sur 10. Donc, vous pouvez retrouver son test. Sur Gameblog sans problème, et moi je vais m'empresser d'aller le télécharger parce que j'ai envie d'y jouer depuis pas mal de temps et j'ai jamais eu l'occasion, donc ni le temps, donc là effectivement ça me donne vraiment envie, quoi. Donc,
puis la DA est somptueuse, les aplats de pastel.
Alors,
et
c'est
tout
sorti sur PC, hein,
ça, ça donne une identité assez particulière au
ouais,
jeu,
exactement,
finalement.
C'est ça, tout à fait.
Pour l'instant, oui, il est dispo que sur PC, sur PC. On espère si évidemment qu'il va finir par sortir sur console.
Exactement. Moi, il m'a fait réussir à rappeler avec sa patte au jeu de VTT que j'avais commencé à tester et qui est jamais sorti sur le site. Hein, Lonely Mountains, exactement. J'ai l'impression que c'est un peu pareil que ça. C'est
qui était, pour te citer, le jeu le plus sous-coté de 2019.
Exactement, c'est moi qui.
C'est avec moi le cast le moins sorti de 2019. Sorti.
Un jour, ça sortirait.
Ce que vous savez pas, c'est qu'on a un game blog parallèle qui est juste pour nous. Il y a que des jeux où il y a tous les tests de Traz.
Non, j'en ai deux qui sont pas sortis. Il y a celui-là. Ouais,
Trackmania.
Non,
Trackmania, je suis arrivé à game blog.
Il n'existe plus. En 2011.
Il y avait Siberia aussi.
Oui, il y avait un jeu point and click aussi.
Oui, mais Yesterday Origins.
Bah, le problème, c'est que
Yesterday Origins.
Yesterday Origins.
Oui, Yesterday Origins, auquel j'avais joué, j'avais fini, évidemment, vous pouvez aller voir sur Steam. Hein,
mais 2011, et je ne sais pas combien de temps il est resté dans la mine, il y avait le test de Trackmania.
En fait, il faudrait prendre les bouts de test et en faire un seul test, tu sais, qui aurait ni qu'une ni tête.
Assez peu cohérent, mais qui au moins sortirait.
Ouais, malheureusement, quand on n'a pas le temps, on n'est pas 150 personnes au bout d'un moment. C'est vrai que je joue au jeu. Encore une fois, yesterday, j'ai dû mettre 25 heures pour le finir, j'ai adoré. Et je crois que je suis tombé malade à ce moment-là, du coup, le jeu n'est jamais sorti. Et bah, ça a été un peu compliqué de revenir après la réalité, mais oui, ça fait partie des trucs qu'il va falloir qu'un jour.
C'est pour ça qu'on les donne à Dopamine.
Peut-être que histoire ça de me dire que j'ai pas perdu mon temps. En fait, on pourrait faire la semaine de trace, tu sais, tous les tests qui sortent pendant une semaine.
Je fais plus rien, je fais que ça.
Les tests de trace.
Exactement. Voilà, donc
dites-nous si ça vous intéresse.
Exactement, dites-le et dites-le à Plume et à Thomas aussi, on sait jamais. Et à Poufy. Voilà pour Art of Rally, donc 8 sur 10 sur Gameblog. Allez lire le test de Dopamine, il est très très bon et ça vous donnera certainement envie de le télécharger sur PC. Tout de suite, Thomas, nous on va parler d'un autre test sur lequel tu es en ce moment, qui s'appelle I Am Dead.
Ouais, une thématique super réjouissante.
C'est vrai.
Puisque bah, tout est dans le titre.
Je crois que c'est dans l'air du temps ou pas ?
I Am Dead, c'est l'histoire d'un mec qui est mort. Maurice Lupton, de son état, qui est un habitant de l'île de Shamerston, qui est une petite île qui dépend de la couronne britannique, mais qui est plutôt, je crois, située en Océanie, et qui en fait bah, commence l'histoire en expliquant qu'il bah, est passé de vie à trépas. Mais bah, très rapidement, il est rejoint par son toutou, Sparky, lui explique qu'en fait, c'est bien gentil d'être mort, mais que...
mais qu'il a faim.
Non, mais que l'île sur laquelle bah, il vivait est en train de partir un petit peu en vrille, puisqu'il y avait un volcan qui était censé être éteint, mais les volcans éteints, ils sont éteints jusqu'au moment où ils se réveillent. Et exactement. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu le cas. On voit qu'il y a de la fumée qui s'échappe du volcan.
Donc c'est l'inverse de Volvic, quoi. Un volcan s'éteint, un être s'éveille.
Non, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Je crois qu'ils auraient pu le marketer comme
c'est
ça.
C'est vrai, du coup, tu l'as donné une idée
j'ai
d'un
titre. J'ai pas encore mon titre. Ouais. Je crois que je vais piocher là-dedans.
Ouais, voilà, c'est cadeau.
Et du coup, Maurice, en fait, va se voir chargé d'une mission qui va être de trouver un nouveau gardien. Un gardien, en fait, c'est quelqu'un de déjà décédé, mais qui se sacrifie, on va dire, une nouvelle fois pour devenir un peu la force vitale de l'île dans sa globalité. Et du coup, eh bien, notre cher Maurice ainsi que la toutou de Sparky vont devoir faire revenir en fait des fantômes pour pouvoir discuter avec eux et leur proposer de devenir ce nouveau gardien. Donc ils vont partir en fait à la recherche de personnalités plus ou moins influentes et bienveillantes qui ont vécu sur l'île. Et pour retrouver ces personnalités en question, eh bien, ils vont devoir trouver des objets qui renvoient justement aux défunts, des objets qu'ils vont aller piocher dans la mémoire que les gens ont gardé des personnes en question. Donc, par exemple, si Traz n'était plus avec nous, bah, nous, on aurait des souvenirs de trucs qu'il aurait pu hurler, des insanités comme ça pour tirer de temps à autre.
C'est pas forcément des trucs matériels.
Alors, si, généralement, c'est ou matériel ou symbolisé, l'idée symbolisée à travers un objet. Donc, en fait, vous évoluez dans des environnements délimités, assez jolis. Il y a, comme dans Art of Rally, une direction artistique très singulière, alors plutôt enfantine et un petit peu minimaliste. Mais en fait, vous allez vous balader, trouver des gens qui ont une bulle de pensée au-dessus d'eux, rentrer dans leurs souvenirs, faire défiler un petit bout d'histoire où justement ça va être le souvenir de la personne matérialisé à travers un objet. Et du coup, une fois que vous l'avez, eh ben, vous allez devoir explorer les décors pour trouver l'objet en question qui va être planqué quelque part. Et en fait, la mécanique principale d'I Am Dead, c'est qu'en zoomant sur les décors, vous allez en fait rentrer dans les objets. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de plan de coupe en fait, qui va avancer en même temps que la caméra et qui va vous permettre de rentrer à l'intérieur d'une maison, puis à l'intérieur d'une pièce, puis vous attarder par exemple sur une table et enfin l'objet qu'il y a dessus pour vraiment aller très très finement dans les détails. Et du coup, c'est un espèce de jeu de recherche comme ça, de dire, ah, attends, oui, tel objet, vu ce qu'elle en a dit dans le souvenir, a priori, il devrait se trouver plutôt dans ce coin-là. Et puis, bah, à ce moment-là, on commence à chercher, on commence surtout à disséquer, en fait, tous les objets. Et très rapidement, on se prend vraiment au jeu, puisqu'en fait, le moindre truc, des fois, même si on se dit qu'il n'y a aucune chance que ce soit là, on a quand même envie d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur, parce que les développeurs ont bossé l'intérieur justement des objets, puisque tout va pouvoir être admiré sous un plan de coupe. Si tu prends la bande qui est juste à côté de nous par exemple et que tu rentres à l'intérieur, tu vas voir les cartes qui y a à l'intérieur, les câbles, des trucs qui sont cachés. Et du coup, il y a plein de petites surprises en fait en allant fouiller. C'est un jeu où il y a plein de boîtes de bureaux, de tiroirs, de boîtes de rangement dans lesquelles on va trouver des trucs qui sont des fois assez cocasses. Il y a pas mal de clins d'œil en fait, et tout s'articule autour de ça en fait. Il faut trouver justement ces souvenirs dans un environnement donné. Et en fait, bah, c'est un jeu qui, quelque part, raconte ce qu'on laisse derrière nous. C'est vraiment un jeu très narratif, mais qui s'attarde sur la présence des gens qui ne sont plus là, en fait, le souvenir qu'ils ont laissé et comment comment on peut quelque part rendre justice à quelqu'un ou se rendre compte de certains aspects de sa personnalité qui n'étaient pas forcément les plus saillants juste en allant puiser dans les souvenirs des gens.
Et tu peux trouver des trucs bizarres ou pas?
Il y a plein de trucs très très bizarres.
Ah, non, si tu vois ce que je veux dire.
Alors, il n'y a pas de contenu sexuel, par contre, il y a énormément de surprises, de trucs cachés effectivement dans des objets. C'est assez fou de voir le niveau de détail avec lequel ils sont attardés justement par moment sur vraiment le moindre truc, parce que une pièce potentiellement c'est des dizaines et des dizaines d'objets sur lesquels tu vas pouvoir
donc t'as pas fini de chercher quoi.
T'as pas fini de chercher. Et alors moi j'ai eu du bol, j'ai compris la logique du jeu et quasiment à chaque fois je tapais juste pour aller retrouver les différents items, donc la progression était assez rapide. On a 5 personnages en fait qu'on va aller visiter au fur et à mesure, mais en parallèle de ça t'as un petit bonus supplémentaire. Puisqu'en fait, très rapidement, Sparky, qui a quand même un peu le lead, hein, ta chienne est morte depuis un petit moment, donc elle sait comment ça marche dans le monde des morts, donc c'est plutôt elle qui va guider Maurice justement sur ce qu'il faut faire. Et elle t'explique qu'en fait, il y a des petits êtres qui sont cachés, un petit peu comme les Koroks dans Breath of the Wild justement, qui sont cachés un peu partout, et elle aboie quand tu t'en approches. Et alors là, tu rentres dans un truc très barré, c'est qu'en fait, le jeu t'affiche un plan de coupe très particulier d'un objet. Et ça va être à toi de trouver l'objet en question et ensuite de rentrer dedans et de l'incliner de la bonne manière pour avoir le plan de coupe pile poil qu'on te demande.
Ça me rappelle des jeux d'aventure où tu devais trouver
l'astuce
sur un objet. Alors,
des fois, tu te rends compte, tu te dis ouais, ok, ça c'est grillé, c'est un amas de boules, ça va forcément être les boules de billard sur la table. Mais des fois, c'est tellement alambiqué le plan de coupe qu'ils ont choisi, parce que c'est vraiment des trucs parfois random. Tu coupes les micros comme ça, tu vas avoir juste quelques arrêts en fait pour t'aiguiller. Et ça c'est un petit bonus, alors qui, spoiler alert, ne mène quasiment à rien. J'ai trouvé tous les items comme ça dans le jeu. Le bonus c'est vraiment osef au possible. Donc à la limite si vous y jouez,
c'est une fausse piste en fait,
perdez pas votre temps
voilà c'est ça, si vous les trouvez c'est cool, mais ne passez pas votre vie non plus là dessus ça rallonge quand même un petit peu la durée de vie. Mais si le jeu fait 5-6 heures on va dire, une heure grosso modo par personnage, mais on passe un bon moment en fait. C'est vraiment un jeu de chill, c'est un jeu que tu fais un personnage par soir, tu vois, tranquillement. T'es dans un lieu particulier, un lieu donné. Au début t'es sur un phare, après tu vas dans le centre-ville, ensuite dans un camping, et à chaque fois ça te raconte en fait, au fur et à mesure que t'avances dans l'histoire, tu te rends compte que cette toute petite île, elle te parle de la massification du tourisme, des conflits entre les autochtones et puis ceux qui sont installés là un peu après. En fait il y a plein de thématiques comme ça qui sont abordées assez finement tout au long de l'aventure, et c'est assez intelligent. Malheureusement c'est quand même assez court, et puis les mécaniques de jeu sont limitées, mais vu le travail qu'il y a eu dans la modélisation des objets, dans le nombre de conneries que tu peux trouver justement à l'intérieur de ces derniers, ça vaut le coup si vous aimez les jeux narratifs et que vous avez envie d'un truc pas trop prise de tête, avec une ambiance quand même assez chouette. Malgré le fait qu'on parle toujours à des morts, les gens sont quand même plutôt cool, tout le monde a l'air d'être assez content d'être passé de vie à trépas dans le jeu.
C'est pas trop badant, parce que c'est la question. Question que je voulais poser, parce que moi la thématique de la mort, c'est un truc qui me pèse vachement.
Tous les morts sont hyper détendus dans le jeu. Ils sont même beaucoup plus détendus que les vivants.
Mais les vivants justement, ils sont pas trop tristes, parce que si tu vois que des gens qui se morfondent de la perte de leur
non, ils sont
nous vivants.
T'as des veuves, t'as des fils de défunts, etc. Mais ça tombe pas forcément dans le pathos, tu vois. Ça reste cohérent finalement avec l'esthétique. Très coloré finalement du titre, donc non, tu tombes pas dans quelque chose de badant. Puis t'as une musique, vraiment une musique de fond qui maintient le truc dans une dimension assez positive tout au long de l'aventure. Donc j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouvais que c'était un bon jeu, donc ça, je lui mets 7 parce que voilà, c'est quand même assez court et un petit peu limité. Mais vraiment, si vous êtes fan du genre narratif et que vous avez envie d'un truc avec une mécanique un petit peu différente, il y a un très bon jeu d'acteurs, des personnages principaux, et on passe quelques bonnes soirées sur I Am Dead finalement. Et puis, je l'ai pas dit, mais c'est édité par Annapurna, ce qui est généralement un petit gage de qualité.
Voilà. Et sur la structure, ça me fait penser un peu, enfin de ce que t'as dit, ça fait un peu penser à une version plus légère de What Remains of Edith Finch, parce que tu sais, sur Edith Finch, c'était découpé par personne, et à chaque fois, il y avait une thématique spécifique au
et surtout en gameplay, là où pour le coup dans I Am Dead.
C'est
les mêmes mécaniques, mais qui vont un tout petit peu se creuser, mais pas tant que ça finalement au fur et à mesure. C'est vraiment plus, on s'attarde sur les personnages, sur leur histoire, sur l'image qu'ils dégageaient et ce qu'ils sont véritablement, et le souvenir qu'ils ont laissé dans la mémoire de ceux qui leur ont survécu.
Et c'est sorti sur quoi?
Sur PC et sur Switch.
D'accord.
Oui, mais sur PC et sur Switch.
Voilà.
Parfait, merci Thomas. Donc I Am Dead, édité par Annapurna.
J'être, qui aurait pu s'appeler en français J'être plus.
Ouais. J'être plus. J'être décédé. Parfait, bah, merci beaucoup, messieurs. Il est temps maintenant de se quitter, de nous dire au revoir, de se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de la rédaction. En attendant, bah, écoutez, vous avez la quotidienne toute la semaine avec Alix et Thomas qui vont assurer.
Les virgules amis.
Exactement. C'est dites-nous ce que vous en pensez. La quotidienne, c'est aussi sur YouTube, c'est sur Gameblog, et donc voilà, vous l'avez partout.
Vous ne pourrez pas y échapper.
Exactement. Donc voilà, quelque chose d'autre à ajouter avant de finir, non ? Tout va bien ?
Bah
non,
ah, merci. Mettez vos masques.
Mettez vos masques et sortez couverts, voilà. Ça, c'est la recommandation absolue en ce moment. On ne sait pas si on sera reconfiné.
Au moment où on enregistre, on ne sait pas si on va être reconfiné ou autre.
Ou si on va avoir un couvre-feu,
exactement.
Oui, c'est vrai.
Pour l'instant, les podcasts, on les assure à la rédaction, mais on ne sait pas si ça va durer.
Ouais,
voilà. Ça se donc le jour où le podcast est diffusé, donc ce mercredi aujourd'hui, on ne sait pas si ce soir le président Macron va nous dire de rester chez nous jusqu'à la fin des temps ou pas.
Voilà. En tout cas, il y aura des podcasts. En tout cas, c'est vraiment une bonne année. Hein, ouais, on s'est bien marré en 2020.
Ah, 2020, c'est la teuf. Il n'y a pas de souci.
Ah ouais, là, c'est
tu dis, on a des nouveaux micros et une nouvelle table. De quoi vous vous plaignez ?
Bah ouais, on va les prendre chez nous, puis voilà.
Ça exactement. Ça va pas traîner. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Et d'ici là, jouez bien. Ciao, ciao.
Ciao.
Bisous.